Mémoire vive,
présentée par Ève Cheftel.
Préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. La Shoah a mis du temps à entrer dans l'univers de la bande dessinée. Hormis une poignée de précurseurs sans lendemain, elle fut longtemps un sujet hors sujet. Et ce, jusqu'à la publication en 1986 de Maus d'Art Spiegelman, qui est à la fois une révolution dans le 9e art, mais aussi une révolution dans la représentation de la Shoah. Bonjour Didier Pazamonic.
Bonjour.
Vous êtes aux côtés de Joël Kotek, l'un des deux commissaires scientifiques de l'exposition Shoah et bande dessinée qui se tient au Mémorial de la Shoah jusqu'au 30 octobre. Pour ceux de nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes belge, qu'on peut le dire.
Mais parfait.
C'est important quand on travaille dans la bande dessinée. Vous avez fait toute votre carrière dans la bande dessinée, à la fois comme éditeur, comme directeur de collection, je ne vais pas toutes les citer, comme journaliste, comme commissaire d'exposition. Par exemple, j'ai découvert que vous aviez été le commissaire de l'exposition de Superman au chat du rabbin.
J'étais le conseiller scientifique.
Conseiller scientifique, voilà, de cette exposition.
Je serai le conseiller scientifique de la prochaine expo Goscinny.
Goscinny, à la rentrée.
Qui aura lieu au
musée d'art et d'histoire du judaïsme, exactement. Alors, Shoah et bande dessinée, c'est une exposition qui est gratuite, je le dis au passage, qui retrace 75 ans de représentation de la Shoah dans la BD, donc un parcours qui nous mène donc de 1942 à 2017. Il y a plus de 200 documents originaux qui sont présentés, c'est important de le dire. Et alors l'affiche que sans doute nos auditeurs ont déjà vue, qu'on peut voir un peu partout dans le métro, est un dessin original d'Anki Bilal, qu'il a réalisé spécialement pour l'exposition, peut-être à votre demande d'ailleurs.
Absolument, oui, en tout cas à ma suggestion. La demande a été faite par le mémorial et Enki a été très honoré de faire cette affiche.
Qui est très belle d'ailleurs, il dit à propos de cette affiche, chacun est libre d'interpréter ce dessin, il est question de libération, d'indestructibilité, d'éternité, mais les mots sont faibles dans certains domaines. On voit trois personnes qui flottent comme ça dans un ciel étoilé d'étoiles jaunes avec un fil barbelé quand même qui rappelle...
C'est une famille d'ailleurs, il y a un papa, une maman et un enfant.
Effectivement.
Voilà.
Alors, l'exposition suit un parcours, on va dire, chronologique. Alors, je me demandais, est-ce qu'on peut dire finalement que l'histoire de la représentation de la Shoah dans la bande dessinée colle à peu près à l'histoire de la mémoire de la Shoah ? Est-ce qu'on peut dire que la BD a épousé donc, les quatre grandes étapes de la mémoire que Canette Viviorca rappelle dans le catalogue de l'exposition dont je vais reparler. Donc, les quatre étapes, c'est le choc de la découverte des camps, on va dire, le temps de latence, qu'on a appelé aussi le temps, l'amnésie ou l'oubli, le retour du refoulé, et la dernière partie qui est en quelque sorte l'institutionnalisation de la mémoire, mais qui est aussi celui d'une mémoire plus apaisée, même si, évidemment, le négationnisme continue, etc. Est-ce que vous diriez que
on peut pas contester une analyse d'année de Viviorca quand même. C'est vrai, mais aussi avec un petit temps de retard. Annette le souligne, c'est pas forcément en temps réel. Quoique, je pense que les deux grands moments qui influencent la bande dessinée, c'est le procès Eichmann en 61, parce que c'est le moment où la parole des témoins est médiatisée et ça fait prendre conscience aux gens d'un certain nombre de choses. Et le deuxième grand moment, c'est le feuilleton Holocauste en 78, qui est diffusé en avril 79 par l'ORTF en France, et qui là permet au grand public d'appréhender cette histoire de façon beaucoup plus digeste, on va dire. Même si Simone Veil disait, mais vous savez, ça n'a rien à voir avec la réalité est bien plus dure que les gens super gentils qu'on vous montre sur l'écran, mais elle ajoutait, mais c'est quand même mieux que rien, parce qu'effectivement, il n'y a eu rien pendant très longtemps.
D'accord. Et c'est vrai qu'on peut être surpris quand on va voir l'exposition, finalement, jusqu'à... Évidemment, le tournant Maos, comme vous l'appelez dans l'exposition, mais encore plus là,
La révolution
Maos. La révolution Maos, il n'y a pas tellement de choses finalement.
Mais en fait, il y a un phénomène de maranisme qui vous a sûrement pas échappé, c'est que on en parle notamment au travers des super-héros dans les comics.
D'accord. On en parle de façon oblique, quoi, en quelque sorte.
De façon oblique, réfractée quand il s'agit de la guerre mondiale des animaux. Donc on en parle. Les deux raisons pour lesquelles on n'en parle pas, elles sont bien connues. Il y a la première raison qui est la raison sociétale. On n'en parle pas dans les journaux déjà, dans les médias, dans les grands médias. Donc pourquoi la bande dessinée se ferait autrement que dans les autres médias? Et puis il y a quelque chose qui est propre à la bande dessinée elle-même, c'est que en 1949 il y a une loi de censure pour la protection de la jeunesse et la Shoah n'est pas un sujet pour les enfants. C'est trop violent, ça correspond pas au code édicté par la loi de 49. Quand vous ouvrez un Tintin des années 60, il y a marqué album passé par la commission de censure de la loi de 49. C'était quelque chose d'assez strict. Et c'est vrai aussi aux États-Unis, où à partir de 1954, il y a un Comics Code Authority qui empêche la représentation de ce genre de choses. Donc c'est pour ça que ces représentations vont longtemps devenir biaisées jusqu'à ce qu'elles rentrent dans le grand public. Et à partir du moment où ça passe à la télévision, il n'y a plus aucune raison que la bande dessinée n'en parle pas.
Alors, il y a un aspect très intéressant de cette exposition, c'est celui sur les super-héros, dont les auteurs étaient juifs, pour la plupart, hein, c'est
oui,
ça
ben oui.
Et vous avez même intitulé une conférence qui a eu lieu donc, en marge de l'exposition, « Pourquoi les super-héros n'ont-ils pas libéré Auschwitz ?»
Oui.
Alors pourquoi justement, ben, puisqu'ils étaient juifs
C'est tout le paradoxe. Donc je rappelle quand même que les plus grands super-héros que tout le monde connaît, que ce soit Superman, Batman, X-Men, les Fantastic Four, Spider-Man, Hulk, Thor, les Avengers, tout ça fait par des auteurs juifs.
Captain America,
tout ça c'est créé par des auteurs juifs. Alors il y a des traces de judéité dans ce qu'ils font, de Superman, le chat du rabbin a suffisamment labouré le sujet, mais oui, c'est étrange, ils vont parler des camps, ils vont pas en parler de façon directe, mais de façon travestie, pour une raison très simple, c'est que s'ils avaient intitulé, ils vont plutôt intituler un camp Wulfhausen que Auschwitz, parce que si c'était Auschwitz, ils auraient dû se documenter, il y a des gens qui auraient dit oui mais c'est pas comme ça, le bâtiment est pas à cet endroit-là, ça c'est la première raison. L'autre raison, c'est que à partir du moment où c'est documenté, il y a pas de place pour la fiction. Et en fait, tout le jeu, c'est une partie de la réponse à votre question. Le seul moment où Captain America arrive à libérer Auschwitz, en 1941, c'est-à-dire au moment où Auschwitz ouvre, en fait, c'est dans un autre espace-temps. C'est pas dans la réalité. Et c'est même un peu ambigu parce que, libérant Auschwitz, il va consoler un petit garçon blond de 10 ans qui s'appelle Magnus et dont les lecteurs comprennent que c'est le fameux Magneto qui va être l'ennemi des X-Men des années plus tard. Et donc, c'est ambigu parce que le jeune lecteur se dit « Bah, heureusement qu'ils n'ont pas libéré Auschwitz parce que sinon, j'aurais perdu le plus grand méchant de la série X-Men. » Donc, c'est vrai qu'il tourne autour du pot et que, mais qu'à partir de 1981, Chris Claremont, qui est un scénariste, qui est le grand scénariste des X-Men, va faire cette petite révolution, c'est qu'il va faire de Magneto
un
rescapé d'Auschwitz, et de façon très, très précise, très, très nominative. Ça a été fait quelques temps après qu'il y ait les premiers super-héros juifs dans la BD, parce que, au cas où vous ne le sauriez pas, la chose dans les Quatre Fantastiques récite le Kaddish à un de ses amis à un moment dans les comics. Mais tout ça arrive fin des années 70. Mm. C'est à la fin de cette période de latence. Et là, du coup, la justification, c'est que Magneto est devenu l'ennemi de l'humanité parce que, ayant vécu l'expérience d'Auschwitz, il n'a plus confiance dans cette humanité et il pense que cette humanité va faire avec les X-Men la même chose que ce qu'elle a fait avec les Juifs. Et du reste, quand on lit les BD, les faits lui donnent raison. Et c'est vrai qu'on a là quelque chose qui fait que presque toute la saga des X-Men tourne autour de cette histoire-là, finalement. On s'aperçoit que dans les années 80, 20 ans d'histoire du comics se justifie par Auschwitz. C'est très étonnant.
Alors, il s'est passé quelque chose donc, dans les années 80. C'est donc la révolution Maos. Enfin, peut-être qui arrive un peu plus tardivement en France, mais j'ai dit 86, je ne sais pas si c'est exact.
Non, vous avez en fait... Il y a plusieurs étapes dans la création de Maos. Les premiers moments où il tourne autour du sujet, c'est 72. Il va faire une petite histoire de 3 pages dans un fanzine, pour ainsi dire, qui s'appelle Maos. Et ces 3 pages vont devenir en 1980 le Maos qu'on connaît et qui est publié en feuilleton dans une revue d'avant-garde que Spiegelman a créée avec son épouse française Françoise Mouly, qui est aujourd'hui la directrice artistique du New Yorker. Et donc ensemble, ils créent cette revue d'avant-garde qui s'appelle Raw, et dans le numéro 2 de Raw, on trouve les premiers épisodes du Maos d'aujourd'hui. Et ce n'est qu'en 86 que ces éléments sont réunis en volume, et ce n'est qu'en 92 que, quand le deuxième volume sort, il reçoit le Pulitzer Prize. La plus haute distinction littéraire aux États-Unis. Donc, c'est ça, voilà la chronologie.
D'accord. Et alors, donc, en quoi c'est une révolution, en fait ?
C'est une révolution à différents titres. D'abord, parce que les lecteurs de bande dessinée aux États-Unis, comme ici, ce sont des gens qui lisent les bandes dessinées les plus populaires, mainstream, comme disent les Américains, c'est-à-dire les bandes dessinées commerciales, justement les fameux super-héros dont on parlait tout à l'heure. Or, le dessin de Spiegelman ne ressort pas du tout de cette lignée graphique. Le dessin de Spiegelman vient plutôt du côté de Robert Crumb et de ce qu'on appelle l'Underground, qui a été créé vers les années 66, 67, 68. Et donc, la caractéristique du mouvement Underground, c'est que, justement, ce ne sont pas des personnages avec des grandes aventures qui se suivent et qui se terminent jamais, bodybuildés et en collant. Ce sont des histoires d'auteurs. Donc, Maos est très important, c'est une première évolution, parce que c'est une œuvre d'un auteur. C'est pas un documentaire.
Personnel, ouais.
C'est pas un documentaire sur Auschwitz, c'est un récit personnel et mémoriel, ça c'est c'est l'autre dimension de ce livre, qui raconte la relation d'un fils avec son père rescapé de la Shoah. Et ça, c'est totalement nouveau, c'est-à-dire que cet aspect mémoriel qui a été initié quelques années auparavant par Will Eisner dans un contrat avec Dieu, se trouve sous une forme qui est la forme du roman graphique. Alors, vous avez expliqué ma longue carrière, les gens vont se dire quel âge il a, il est né au XVIIIe siècle. Dans ma longue carrière, j'ai été le diffuseur de la revue Raw en 1980 en Belgique. Et dès que j'ai vu Maos, j'ai écrit à Spiegelman et je lui ai dit « Art, je veux publier ta BD ». Et il m'a répondu très gentiment par une longue lettre de 4 pages dans laquelle il m'expliquait qu'il ne voulait pas être publié par un éditeur de bande dessinée. Il voulait être édité par un éditeur de littérature. Ce qu'il a fini par faire, puisque ça a été publié...
Il avait déjà clairement conscience lui-même qu'il s'inscrivait dans un autre...
Voilà, c'était publié par Flammarion en France et par Penguin aux États-Unis. Et donc, effectivement, le roman graphique fait irruption dans la littérature. C'est là qu'elle est l'autre révolution. Et donc, ceci additionné au thème de la Shoah... Mmh. Et qui est fait pour la première fois de façon sérieuse, documentée.
Et puis à travers le thème du témoignage aussi, c'est-à-dire il exploitait aussi tous ces non-dits entre de la part de la deuxième génération et de la première génération, toute
Absolument.
Cette incompréhension.
Absolument, c'est la première œuvre de transmission de la Shoah.
C'est ce que tu disais, Rachel, quand on a préparé l'émission, que c'était aussi un tournant dans la représentation de la Shoah, Maos. Au-delà quoi, de l'aspect.
Oui, et puis avec une forme extrêmement moderne, on peut même dire postmoderne, parce que souvenez-vous de la séquence où il est dans un taxi et où il voit son père en train de tenir des propos racistes sur le conducteur noir du taxi, et où il interpelle son père en disant « Mais toi qui es un rescapé de la Shoah, comment tu peux tenir de tels propos ?» Il y a une scène où on le voit... avec un masque, dessinant sur un immense tas de cadavres, en train de se dire, je suis en train de faire quoi ? Je suis en train de... Donc il y a une réflexivité. Il y a un regard sur l'œuvre qui est le propre du modernisme, enfin de la modernité.
Et un côté un peu transgressif aussi, quoi, par rapport à la sanctification des victimes.
Absolument, il peut
être une victime et un père, un mauvais père, un peu maltraitant.
Il n'a pas attendu d'avoir fini le livre pour se poser la question de dire, est-ce que j'ai le droit d'être le porte-parole de ces témoins alors que je suis rien? C'est mon père qui est le rescapé, c'est pas moi.
Mettant en scène ses doutes, comme aujourd'hui tout le monde le fait.
C'est ce qu'on appelle l'autofiction. C'est important parce qu'il va mettre en branle un phénomène qui va devenir mondial, c'est que le roman graphique va être par excellence le lieu de la mémoire. Quand on voit Persepolis de Marjane Satrapi, elle met ses pas dans celui de Spiegelman ou même Riyad Satouf récemment. Mmh. Donc il a ouvert une voie.
Et puis les universitaires aussi ont répondu, c'est-à-dire dans l'universitaire spécialiste de littérature, ils ont aussi reconnu.
C'est une œuvre intellectuelle. Mmh. On est à 100 000 lieues des super-héros, effectivement.
Alors, vous abordez aussi la question, je trouve, intéressante dans un panneau qui est la question de l'humour. Est-ce qu'on peut rire de la Shoah ? Donc la question des caricatures finalement, est-ce que l'humour est compatible avec le respect qu'on doit aux victimes, à travers donc des planches que vous avez choisi d'exposer de Wolinski.
Il y a Wolinski, il y a Vimin aussi, qui est extrêmement transgressif. Il y a même le dessinateur israélien Uri Fink, qui n'est pas très tendre avec l'armée israélienne. La question s'est posée. Moi, j'ai eu tout un dialogue avec les gens du mémorial, parce que le mémorial, c'est quand même une institution. On ne rigole pas avec ces choses-là.
Et de montrer la une de Charlie, on voit Hitler super sympa, salut les youpins, ça gaze, ça peut choquer.
Effectivement.
Mais c'est bien mis dans son contexte.
Le dessin dont vous parlez est donc un dessin de Charlie Hebdo, on l'aura compris. Alors on peut se dire c'est gracieux, c'est du Charlie Hebdo, ça ne nous étonne pas, le côté transgressif de Charlie Hebdo. Sauf que la date, c'est le 2 novembre 1978, c'est-à-dire 4 jours après qu'un monsieur qui s'appelle Darquier de Pellepoix, qui est le commissaire général aux affaires juives, c'est-à-dire qui a spolié les juifs de France pendant l'occupation, que ce type-là qui a réussi à s'échapper en Espagne et qui, de chez Franco, donne une interview à l'Express dans laquelle il dit « À Auschwitz, on n'a jamais gazé que les poux ».
Bien sûr, cette couverture répond à cette... qu'on pourrait dire banalisation, c'est même pas banalisation.
Mais on est en 78, c'est l'année où Faurisson commence à communiquer, c'est-à-dire où le négationnisme commence à entrer dans la sphère médiatique. Et la question qu'il fallait se poser, et que c'est ce que j'ai expliqué aux responsables du mémorial, c'est si vous devez laisser l'humour à Dieudonné et à Soral, alors on a tout perdu. Au contraire, il vaut mieux l'affronter, cet humour-là, le décrypter, le décoder. Et il y a une grande différence entre l'humour de Dieudonné et l'humour de Wolinski, c'est que l'humour de Dieudonné cherche à blesser les victimes.
C'est pas l'humour, de toute façon. Ça ne suscite pas le rire.
Non, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas de l'humour, parce que ça appelle le rire. Il y a des gens qui rient de ça, donc vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas. En revanche, on peut constater, ce qui est important, c'est l'intention de l'humour. Et on peut constater que l'intention, quand il fait monter Faurisson sur la scène en tenue de déporté, l'intention est véritablement de blesser la mémoire des déportés. Ce qui est très différent de l'intention de Wolinski ou même de Vimin.
Provoquer à la réflexion, pas provoquer.
C'est une grande différence. Mais il faut qu'on arrête de dire que Dieudonné n'est pas drôle. Il est drôle et c'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème.
Il peut l'être, mais enfin, je trouve qu'il est de moins en moins. Il l'a été, mais enfin, il est plus tellement quand il fait monter Forisson en pyjama rayé sur scène. Enfin, c'est pas drôle, quoi.
C'est blessant, c'est aussi blessant, c'est quand même haineux, quoi.
C'est... Ouais, ouais. Alors, dernière question,
on peut être drôle et haineux.
Le temps tourne.
C'est ça, c'est malheureusement.
Oui. Peut-être. Non, mais ça, c'est un autre débat, mais il faudrait l'avoir. J'en profite pour dire que le catalogue, justement, prolonge vraiment de façon très, très intéressante l'exposition, approfondit certaines de ces questions. Il y a, par exemple, un bon article de Joël Kotek, je crois que c'est lui qui l'a écrit, qui s'intitule « Rire dans la fachosphère, quand un dessin est-il antisémite ?»
C'est pas Joël Kotek.
C'est pas Joël, celui-là. Mais, c'est Jean-Yves Camus. Voilà, pardon.
C'est Jean-Yves Camus qui est un des spécialistes, justement, de la fachosphère.
Voilà, mais donc, voilà, j'invite vraiment les auditeurs à se procurer le catalogue. Puis en plus, il y a des planches.
Il y a des analyses extrêmement pointues, et notamment, par exemple, sur un livre qui s'appelle « Hitler égale SS », qui a eu 9 plaintes de déportés quand il est sorti, où on fait véritablement l'analyse des attendus de jugement, etc., précisément pour comprendre quand un dessin est antisémite et sur quel registre juridique il peut être condamné. Et là, en l'occurrence, c'est sur le trouble à l'ordre public. C'est pas pour antisémitisme, ni pour révisionnisme, ni pour négationnisme, pardon. C'est véritablement pour trouble à l'ordre public, parce que l'atteinte à la mémoire est un trouble à l'ordre public.
Alors, la dernière partie de l'exposition montre voilà, que depuis 10 ans à peu près, on assiste à une véritable consécration de la Shoah dans la BD. La dernière salle, c'est une salle de lecture d'ailleurs où on peut consulter.
Oui, on renvoie au livre.
Voilà, donc sur place, directement les bandes dessinées. D'ailleurs, quand je suis allée voir l'exposition, il y avait des adolescents qui étaient là, à Vachy, donc je me suis dit que c'était très bien, qu'elle avait atteint son but et qu'ils étaient tous en train de bouquiner.
C'est le conseil que je donne aux profs, par exemple.
Ouais, de les laisser se servir.
C'est de créer 3 groupes dans une classe, à chacun de donner un livre différent. Et de raconter ensuite leur expérience de lecture. Et sur cette expérience de lecture, ils ont tous les points d'appui qu'ils veulent pour parler de la Shoah, alors que ça aurait été peut-être difficile si ça avait été exposé ex cathedra.
Exactement. Voilà, donc j'invite, on va en rester là, hein, j'invite les auditeurs à aller se faire une idée, voilà, j'invite les auditeurs à aller voir l'exposition, tout simplement, et à s'attarder dans la salle de lecture, voilà, pour découvrir tout ce foisonnement d'œuvres qui traitent, voilà, de façon d'ailleurs artistique, pédagogique.
Avec beaucoup de talent.
Vous dites aussi quand même, parfois, qui ne sont pas toujours exemples de stéréotypes ou d'idées reçues. Vous en appelez d'ailleurs dans la dernier panneau de l'exposition à la responsabilité des auteurs et à notre vigilance. Merci en tout cas, Didier Pazamonique, je rappelle donc que vous êtes un des commissaires scientifiques de l'exposition Shoah et bande dessinée que l'on peut voir au Mémorial de la Shoah jusqu'au 30 octobre avec une nocturne le jeudi soir à 22h. Voilà, pour ceux que ça intéresse. C'était Mémoire Vive, 2 adresses pour nous retrouver, radio-rcj.info, mémoirevive au pluriel.net. À dimanche prochain.